Je vais prier. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour cette première partie où tu nous as beaucoup parlé. Seigneur, je suis heureux que toute chose ne repose pas juste sur une seule personne, Seigneur, mais que c'est ton peuple qui glorifie ton nom. Seigneur, je prie pour que tu continues à être glorifié et que la parole puisse pénétrer au fond de nos cœurs et porter du fruit pour la vie éternelle. Amen. Voilà, on va lire dans Exode au chapitre 33. Que vous imaginiez que vous êtes un grand pâtissier, très célèbre, et qu'un maître de cérémonie vous demande de lui faire une belle pièce montée pour un mariage. Une pièce montée, vous savez, 1,80 m de haut, tout en sucre tiré, avec des éléments moulés en chocolat, avec du croquant, avec des choux à la crème, le tout qui fait une pyramide comme ça Qu'est-ce qui se passe? Ça vous donne faim? Alors, sachez que je suis en train de vous décrire la pièce montée que Brigitte et moi avons eue pour notre mariage. Eh oui. 1,80 m. Imaginez que vous êtes ce pâtissier et que l'on vous demande de faire une pièce montée telle quelle. Et que le jour des noces, vous arrivez avec cette pièce montée. Évidemment, vous arrivez à l'heure où il faut la couper, n'est-ce pas? Vous ne faites pas ça, vous la montrez pas avant. Et lorsque vous arrivez, vous apercevez que les gens sont là, en train de manger de vulgaires gâteaux. La pièce montée a été complètement oubliée. Et ils sont en train de se baffrer, de se goinfrer de biscuits vulgaires, sans intérêt, acheté à la boulangerie du coin ou à Carrefour, et vous vous dites, mais c'est incompréhensible. Et vous vous dites, il n'y a plus qu'à laisser tomber, et vous prenez votre pièce montée et vous la jetez par terre. C'est juste une petite illustration pour vous dire ce qui s'est passé pour Moïse. Lorsqu'il est redescendu de la montagne où Dieu lui avait donné la loi, n'est-ce pas? Cet homme de Dieu qui avait été au contact du Très-Haut pendant de nombreux jours, Dieu avait façonné la loi divine, avait fabriqué de ses mains l'objet sur les tables sur lesquelles il avait gravé lui-même la loi. Et lorsque Moïse redescend, c'est pour constater que le peuple est en train de se divertir avec quelque chose de vulgaire, quelque chose d'innommable, quelque chose d'impur. Et Dieu prend l'état, et Moïse, mais Dieu évidemment derrière cela, prend les tables et les brise par terre. C'est un véritable drame qui se joue. Et j'aimerais que nous lisions donc un événement qui se passe à la suite de cette histoire, à partir du verset 12 au chapitre 33. Moïse ne sait plus très bien où il en est. Au verset 7 du chapitre 32, l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Dieu était tout près de se désengager. Ils avaient fait beaucoup de chemin ensemble. Dieu avait beaucoup œuvré. Moïse avait beaucoup travaillé. Et Dieu était tout près de se désengager. Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Vous comprenez que Dieu était tout près d'arrêter. Et donc au verset 12 du chapitre 33, nous avons une conversation intense entre Dieu et Moïse. Parce que Moïse a besoin de savoir des choses de la part de Dieu. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. » Cependant, tu as dit, « Je te connais par ton nom. » Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas me voir, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. » Il y a dans ces quelques versets de quoi faire, je ne sais pas, 10 prédications sans doute. Différentes. Je vais essayer de commenter certains aspects et j'ai relevé notamment 2 points extrêmement importants sur un thème qui est principalement celui de la notion de la présence de Dieu. Comme je vous l'avais dit, Moïse et Dieu avaient déjà vécu ensemble des temps forts, mais Moïse avait une interrogation. Où est-ce que je me situe dans le plan de Dieu? Quelle est ma place, là maintenant? Est-ce que je suis toujours le choix de Dieu comme conducteur du peuple d'Israël? Et si c'est le cas, est-ce que Dieu, est-ce que tu peux me montrer quelque chose? Est-ce que tu peux me faire voir que le choix qui est le tien n'est pas juste un choix organisationnel, un choix de contexte, mais est-ce que c'est vraiment un choix de ton cœur? Je crois que c'est ça que Moïse recherchait, que Dieu lui confirme sa position et que Dieu lui montre par quelque chose qu'il était le choix du cœur de Dieu. Et Dieu va lui répondre admirablement, avec un amour qui m'émeut rien que d'y penser, en fait. Dieu va d'abord confirmer son statut au conducteur du peuple d'Israël. Au verset 12, je te connais. Vous rappelez l'histoire de Moïse. Vous rappelez comment il a été sauvé par la fille de Pharaon alors qu'il était en danger de mourir. Il a été sauvé des eaux, Moïse. Mais pourquoi? Parce que déjà là, Dieu avait sa main posée sur lui. Et donc Dieu le connaissait depuis longtemps. Depuis sa naissance, il le connaissait. Et dans ses paroles, « Je te connais par ton nom », Dieu lui réaffirme qu'il n'est pas là par hasard. Il n'est pas juste un agrégat d'atomes, de molécules, posé là, selon les circonstances du temps, et qu'il l'utilise pour conduire le peuple d'Israël. Il est là parce qu'il lui a donné lui-même son nom. Et parce que depuis le début, il avait un plan pour lui. On se rappelle que dans Jean 1, il y a une histoire comme ça où Jésus s'adresse à Nathanaël. Il dit, je te connais. Il lui a dit pareil. Je sais qui tu es. Et des fois, je me demande si nous avons ce sentiment que Dieu nous connaît. Il y a une chose qui est étrange lorsqu'on se donne au Seigneur. C'est que finalement, on a le sentiment d'avoir toujours connu Dieu. Lorsqu'on se donne au Seigneur, on n'a pas le sentiment de rentrer dans quelque chose d'étrange comme relation. On n'a pas le sentiment de rentrer dans une relation mystérieuse, ésotérique, bizarre. On a le sentiment d'intégrer une famille, des situations, quelque part qui nous sont connues déjà. Eh bien, ça, c'est simplement parce que Dieu nous connaissait depuis le début. Et simplement qu'il a rétabli la relation qui était brisée. Je te connais. Un peu plus loin, au verset 17, tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Le fait que Dieu nous connaît ne suffit pas. Moïse a été observé, a été testé, et il a été approuvé par Dieu. Moïse était un grand homme, très capable, même s'il faisait semblant de ne pas l'être. Pharaon était un grand homme, et capable. Pharaon aurait pu se repentir. Pharaon aurait pu ne pas aller dans les extrêmes dans lesquels il est allé. Il aurait pu accepter de laisser partir Israël. Mais il a décidé d'en faire autrement. Il a été observé par Dieu. Il n'a pas été approuvé. Moïse a été observé par Dieu dans son comportement. Et il a été approuvé de Dieu. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Au verset 14, on a un autre aspect que Dieu donne pour assurer ou rassurer Moïse. Verset 14, il lui dit, « Je marcherai moi-même avec toi. » Et il rajoute, « Et je te donnerai du repos. » On peut marcher avec quelqu'un, mais ça ne suffit pas pour donner à l'autre du repos. N'est-ce pas? On peut, des fois vous marchez avec des gens, et surtout en montagne, lorsque la pente commence à monter, et alors vous en avez, ils n'arrêtent pas de parler. Ils causent, et ça ne vous donne pas du repos, c'est fatigant. Il y a des situations où le compagnon de marche peut être du repos quand il vous prend votre sac, quand il vous encourage, quand, si vous êtes dans la jungle, je ne sais pas, il s'occupe de frayer un passage. Être du repos pour quelqu'un, ça veut dire prendre en charge pour lui à certains moments, lorsque c'est nécessaire. Est-ce que nous sommes de ceux qui donnons du repos à nos proches, à nos amis, à nos frères et sœurs dans l'Église, à nos enfants, à nos époux, à nos épouses? Ou est-ce que nous sommes des poids lourds qu'il faut traîner, qu'il faut charger sur ses épaules pour les faire avancer? Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu a dit à Moïse, « Je marcherai avec toi, mais pas seulement cela, et je te donnerai du repos. » C'est Jésus qui a dit ça aussi. Je donnerai du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous, il est doux et léger. Je me rappelle lorsque j'étais militaire et qu'il fallait faire les classes, alors on nous demandait de marcher très longtemps. 20 km, 30 km, je ne sais plus. Ça s'appelait les marches commando. Et vous aviez un sergent instructeur qui était là. Il vous hurlait dans les oreilles pour vous faire avancer. Il n'était pas reposant. Mais je pense qu'il n'était pas reposé non plus dans son cœur. ça nous faisait avancer. Mais ce n'était pas reposant. Est-ce que nous sommes du style sergent-instructeur? Ou plutôt comme Dieu, à prendre en charge? C'est les pharisiens qui avaient pour, dont Jésus disait, vous liez des fardeaux sur le dos des gens. Est-ce que nous lions des fardeaux sur le dos des gens? Ou est-ce que nous les aidons? Est-ce que nous les aidons, nous les soutenons, nous les portons? Oh, j'ai déjà assez avec mes propres problèmes. Peut-être. Peut-être que vous avez vos propres problèmes. Mais Jésus a dit, si je marche avec toi, je te donnerai du repos pour ton âme. Donc Dieu a rassuré Moïse. Il lui a réaffirmé des choses qu'il lui avait déjà dites. Mais il a fait plus que ça. Moïse connaissait déjà bien Dieu. Dieu s'était révélé à lui dans le buisson ardent, comme étant Jéhovah, comme étant l'Éternel, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Abraham avait connu Dieu. Les autres avaient connu Dieu, mais Moïse était le seul à qui Dieu s'était révélé comme l'Éternel. Et c'était, rien que cela était un privilège. Et Dieu allait faire plus pour lui. Au verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Mais avant cela, l'Éternel dit, « Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. » Je ne sais pas si Dieu vous a déjà dit, je ferai ce que tu me demandes. Rendez-vous compte. Le Dieu créateur, celui qui était en train de préparer la première théocratie. Celui qui venait de sortir ce peuple, qui n'était même pas un peuple, qui venait le sortir du pays d'Égypte, qui venait de l'amener là, au pied du mont Sinaï. Celui qui avait envoyé des plaies à Pharaon. Celui qui avait ouvert la mer Rouge pour qu'il puisse passer. Celui qui avait fait les tables de la loi, qui avait donné le plan du tabernacle. Ce Dieu-là dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes. » Et Moïse lui dit pas, « Oh, moi j'aimerais devenir un grand roi qui va avoir la force de gouverner ton peuple et que ce peuple finalement va obéir et arrêtera de me casser les pieds comme il le fait depuis des jours et des jours. » Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire. Parce que j'ai relevé quelque chose d'extrêmement important au verset 13. Au verset 17, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Au verset 13, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. En économie, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. C'est l'inverse d'un cercle vicieux. Un cercle vicieux vous amène vers le bas, un cercle vertueux vous amène vers le haut. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître ta volonté. C'est ça que ça veut dire. Alors, je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Eh bien, il faut se rapprocher de Dieu. Si vous vous rapprochez de Dieu, vous connaîtrez Dieu. Et vous connaîtrez sa volonté. Et lorsque vous connaîtrez sa volonté, vous vous rapprocherez encore plus de Dieu. Et il vous fera grâce. Et vous connaîtrez ses voies. On se fait des fois beaucoup de simagrées concernant la volonté de Dieu. Mais nous avons dans ce passage le secret. C'est le rapprochement. Fais-moi voir ta gloire. Il faut venir auprès de Dieu. Et c'est ce que Moïse va faire. Le problème, c'est que quand on cherche Dieu, on dit, oh Dieu, je te cherche. Et le problème, c'est qu'on a toujours un mais. Je te cherche, mais... je ne suis pas vraiment prêt à lâcher ça. Je cherche à te connaître mieux, mais bon, le mardi soir, il y a quand même des fois un match de foot. Et c'est une image. Ce n'est pas le problème du match de foot. C'est qu'il y a un problème de radicalité. Et Dieu aime les gens, les peuples, qui prennent des décisions radicales. Et ce que Dieu ne supportait pas dans le peuple d'Israël, c'était qu'il était un peuple qui était double, qui était corrompu, qui jouait double jeu, qui faisait semblant de dire oui, et qui après se rétractait. Et Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas le caractère de Dieu. Et il ne veut pas que son peuple soit comme cela. Il veut que ceux qui le cherchent vraiment, en esprit et en vérité. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Deux choses. La bonté de Dieu. Un des aspects de la gloire de Dieu, c'est sa bonté. Lorsqu'Étienne est mort, il a vu la gloire de Dieu. Et Jésus, aux côtés. C'était la bonté de Dieu qui venait le rechercher. Étienne n'avait pas peur. Pourquoi? Il ne voyait pas les gens en train de lui jeter des pierres. Il voyait la bonté de Dieu pour lui. Venir le chercher. Ensuite, il dit, je ferai passer devant toi, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Là, il lui dit, je ferai en sorte que lorsqu'on dira Moïse, on pensera à l'Éternel. En gros, c'est ça. C'est que face aux autres peuples, lorsqu'ils entendront parler de Moïse, ils se rappelleront ce que l'Éternel a fait. C'est-à-dire que Dieu était en train de dire à Moïse, tu seras identifié à moi. Évidemment, tout cela nous parle de Jésus. Tout ce passage nous parle, on peut tout rapporter à la rédemption que de Christ dans le Nouveau Testament. Mais je vais rester juste sur le texte. Moïse, lorsque les peuples, les nations entendront parler de toi, ils connaîtront que l'Éternel est avec toi, qu'il y a là-bas un autre Dieu, que le Dieu de ce peuple est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu qui a été fabriqué par des mains d'hommes, mais c'est un Dieu qui est vivant et qui accomplit des choses. Je ferai passer, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je pense également que Dieu disait, Moïse, non seulement les peuples, mais aussi toutes les puissances démoniaques à l'œuvre déjà, sauront que ce peuple et que toi, le conducteur de ce peuple, vous appartenez à l'Éternel, au Dieu vivant. Et c'était déjà pour Satan la connaissance de ce que Dieu allait accomplir au travers de Jésus-Christ dans le grand plan de la rédemption. Jésus, lorsqu'il s'est retrouvé face à des démons souvent ou des gens qui étaient possédés, il ne disait pas « Qui es-tu, toi ?» Il lui disait « Nous savons qui tu es. Jésus de Nazareth, nous savons qui tu es. Tu es venu pour nous persécuter. » Eh bien, je pense que Moïse, déjà, avait reçu de l'Éternel, en étant identifié, c'était ça hein, que Dieu faisait, il lui donnait à l'intérieur de lui quelque chose de Dieu qui faisait que les puissances démoniaques à l'œuvre, déjà à l'époque, savaient que Moïse était le protégé de Dieu, le conducteur de son peuple. On va continuer encore un peu plus loin, parce que Dieu a donc commencé à dire à Moïse qu'il allait avoir du poids spirituel. Et il va plus loin. Il l'invite à entrer dans son intimité. Et il lui dit, au verset 21, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher ou dans une fissure et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Voici un lieu près de moi. Dieu invite Moïse à se rapprocher, tout près de lui. Pourquoi est-ce qu'on se met près de Dieu? Pourquoi est-ce que vous et moi, nous mettons-nous près de Dieu? Parce qu'on l'aime. Dieu attire à lui essentiellement qui? Les gens qui sont malades. Les gens qui ont besoin d'un docteur. Les gens qui sont les pécheurs. Dieu attire à lui les pécheurs. Les gens conscients de leur péché. Et c'était aussi la caractéristique de Jésus, c'est qu'il avait autour de lui une ribambelle de gens qui étaient des pécheurs, qui se sentaient sales et souillés, et qui voyaient la sainteté de Jésus, et qui étaient attirés par lui. Ce sont les pécheurs qui viennent près de Dieu. C'est pour ça que vous et moi, nous nous sommes approchés de Dieu un jour. Nous avons eu envie de nous approcher de lui parce que, instinctivement, nous savions qu'il y avait là quelque chose, quelqu'un, une force, on ne savait pas quoi, qui pourrait nous aider dans notre souffrance, dans notre difficulté. Vous n'êtes pas venu parce qu'on vous a dit qu'il faut venir, que c'est bien, on va passer du bon temps avec Dieu. Parce que si c'est pour ça que vous êtes venu, alors peut-être que vous êtes déjà reparti. Parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce sont les pécheurs qui viennent auprès de Dieu. Tu te tiendras sur le rocher. Parce qu'aussi, à côté de Dieu, le terrain est ferme. Lorsqu'on a marché toute sa vie dans des sables mouvants, lorsque notre espace, c'est un marécage, eh bien nous avons envie d'avoir du terrain ferme. Un terrain où on sent que le sol ne se dérobe pas sous nos pieds. Viens près de moi sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te mettrai dans un pli du rocher, dans une fissure. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. On peut voir beaucoup de choses derrière ces paroles. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu est connu comme étant celui qui couvre ses enfants de ses ailes, qui le protège. Mais il y a aussi, dans Matthieu 6, verset 6, vous lisez, « Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et le Père qui voit dans le lieu secret, j'ai pas le terme, te le rendra, oui. Il n'y avait pas de porte à l'époque où parlait Jésus. Il n'y avait pas de chambre pour les personnes. On avait une pièce pour tout le monde. On n'avait pas le luxe de pouvoir se mettre dans sa propre chambre, dans son fauteuil Louis XV. Et de prendre sa Bible, de se laisser aller à la méditation et d'entendre la voix de Dieu. C'était pas comme ça. Mais ces paroles de Jésus signifient « Va, là, cherche dans ton cœur un endroit au calme. Même au sein de la foule, il y a dans à l'intérieur de toi un endroit où tu te recueilles. Et Dieu voit le secret des cœurs. C'est comme un repli, c'est comme une fissure dans un rocher. C'est là où la main de Dieu passe. Et c'est là où tu reçois l'enseignement de Dieu. C'est là où tu reçois le soulagement, le repos pour ton âme. C'est là où tu reçois toute l'affection que Dieu a pour toi. L'amour de Dieu. Est-ce que vous avez reçu l'affection et l'amour de Dieu? Est-ce que Dieu vous a mis dans un petit coin et il vous a parlé? Il a posé sa main sur vous et avec amour, il vous a enseigné toutes les choses qui le concernent. Est-ce que vous avez pu vivre cela déjà? Ou est-ce que pour vous, Dieu est encore un Dieu lointain, étranger, un Dieu qui est incompréhensible, un Dieu qui fait des choses insensées, un Dieu qui est méchant? Alors sachez que Dieu a cette capacité de vous mettre à part pour lui. Et seul à seul, remplir votre cœur de choses absolument ineffables, des choses qui sont juste entre vous et lui, des choses qu'on ne peut pas raconter et qu'on ne doit pas raconter parce qu'elles sont personnelles. Des choses dont on ne doit pas faire un enseignement. Juste des choses entre vous et lui. Alors je prie que le Seigneur vous montre cela, si vous ne l'avez pas connu. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras. Cet endroit, c'est aussi le lieu de la révélation. C'est là où, lorsqu'on a été à côté de Dieu, très près, comme Moïse, on l'a connu, on l'a côtoyé. Il est dit, il lui parlait face à face. Dieu était caché, mais il lui parlait face à face. Mais Dieu lui a montré qu'il y avait encore une connaissance plus grande qu'il pouvait avoir. Et cette connaissance, c'était celle de la révélation de Dieu à son cœur. Je retournerai ma main et tu me verras. Nous verrons Dieu face à face lorsque nous serons là-haut avec lui, nous dit un Corinthien. Mais nous pouvons voir et avoir cette révélation de Dieu dans nos cœurs. Celle où Dieu nous assure que nous ne sommes pas juste des pions sur un échiquier. Le résultat d'une évolution quelconque, et que nous sommes le choix de Dieu, le choix de son cœur. Et pour cela, Dieu, qui a tout créé, qui est grand, saint et pur dans une mesure qui nous dépasse, est prêt à s'investir pour chacun d'entre nous, comme il l'a fait pour Moïse, au travers du sacrifice de son Fils, le Seigneur Jésus, sa mort, sa résurrection, le versement du Saint-Esprit, le déversement du Saint-Esprit. Tout cela, toutes ces choses que je viens de lire, sont des images de ce que Dieu a fait au travers de Christ plus tard. Mais cela est à notre portée aujourd'hui. Beaucoup plus que ça ne l'était pour Moïse. Frères et sœurs, je crois que plus que jamais, nous avons besoin de la présence de Dieu en nous, mais dans l'Église aussi. Moïse n'a pas connu Dieu peut-être aussi bien que nous pourrions le connaître. Et pourtant, ce que nous voyons là est déjà incroyable. Et je crois que Dieu veut nous donner une vraie révélation de lui. Pour que ce soit toute notre vie qui change. C'est-à-dire que, étant sûr, assuré que nous sommes le choix de Dieu, il n'y ait plus le regret du passé. Il n'y ait plus l'inquiétude de savoir est-ce que je lui appartiens ou est-ce que je ne lui appartiens pas, est-ce que je suis sauvé, est-ce que je ne suis pas sauvé. Pour cela, il faut s'appliquer à rechercher la présence de Dieu. Il n'y a pas de truc pour rechercher la présence de Dieu. Je pourrais vous dire, Prenez tant et tant de temps tous les matins ou le soir. Mettez-vous à l'aise et ceci et cela. Je pourrais vous donner plein d'astuces et de méthodes. Mais la présence de Dieu ne se recherche pas avec des astuces et des méthodes. La présence de Dieu, c'est la volonté de se rapprocher de Dieu et de mettre de côté tous les mets. Tout ce qui nous bloque, et pour cela vous savez parfaitement ce qui vous bloque. Ça peut être l'argent, ça peut être le manque de confiance, ça peut être la crainte, ça peut être plein de choses. Ça peut être un état intérieur qui est insatisfait. Il y a beaucoup de choses qui bloquent. Enlevez les mets, recherchez Dieu. Et la présence de Dieu se fera de plus en plus forte. Et au fur et à mesure que la présence de Dieu se fera forte, vous connaîtrez sa volonté. Et au fur et à mesure que vous connaîtrez sa volonté, vous connaîtrez mieux le Seigneur Dieu lui-même. Et ainsi de suite. Et c'est ce cercle-là qui nous amène dans la vie éternelle. C'est ce cercle dit vertueux, ce cercle, cette dynamique ascensionnelle, on va dire, qui nous amène et qui nous amènera directement dans la présence de Dieu. Et le fait de passer de la vie à la mort ne fera aucune différence. Voilà. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous te connaissons juste partiellement. Seigneur, en ce qui me concerne, je veux te connaître plus. Je veux me rapprocher de toi afin de connaître tes voies. Seigneur, je te remercie de donner aussi à chacun dans l'Église la révélation de ton affection toute particulière. Seigneur, de montrer que tu es un Dieu qui prend chacun en compte individuellement. Tu as pour nous un endroit où tu veux nous rencontrer, t'adresser à nous, afin de donner des réponses à toutes les questions que nous avons, comme tu l'as fait pour Moïse. Seigneur, nous pouvons venir à toi et recevoir une révélation beaucoup plus forte, beaucoup plus complète de qui tu es, qui va au-delà de la religion, qui va au-delà des bonnes habitudes de venir au culte et aux réunions. Seigneur, tu veux faire de nous des enfants de Dieu qui ont reçu une loi dans leur cœur, qui portent en eux le signe de la gloire de Dieu, qui sont connus des puissances démoniaques comme étant ceux venus pour persécuter, qui sont connus de toi comme étant ceux qui ont reçu la révélation toute particulière du Dieu Très-Haut, qui ont la marque et qui ont le nom donné par Dieu. Seigneur, je nous confie chacun à toi, afin que tu nous gardes aujourd'hui et dans toute la semaine. Amen.